Il y a 2 mois de cela, nous avons vécu notre week-end d'église à Aucun avec et Richard Maurice, notre orateur, nous a enseigné sur le thème grâce et amour entre chrétiens, avec cette question de faire grâce à mon frère qui est à côté de moi. Et pas toujours simple. Mais il nous a donné la raison pour faire cela. C'est la grâce de Dieu à notre égard. C'est parce que nous sommes au bénéfice d'une grâce si grande et si imméritée, nous a-t-il dit, que nous pouvons et devons même faire grâce aux autres. Mais pour cela, pour pouvoir faire cela, il va sans dire qu'il nous faut donc l'avoir comprise, mesurée, acceptée, expérimentée, cette grâce de Dieu à notre égard. Puisqu'elle se veut au cœur de toute notre vie chrétienne, nous devons en comprendre sa signification, son sens et sa grandeur. Comprendre la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Comprendre pourquoi Paul pouvait parler, et Richard nous a aussi cité ce verset, de la gloire de la grâce de Dieu. Comprendre pourquoi Pierre, dans sa première lettre, pouvait affirmer « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. » Les anges désirent plonger leur regard dans cette grâce qui nous est offerte. Waouh ! Je me dis, à quel point doit-elle être extraordinaire ? À quel point ce don gratuit que Dieu nous fait doit-il être renversant pour que les anges veuillent y plonger leur regard. Et donc à quel point il doit être à même de bouleverser toute notre conception de la vie. Alors oui, il nous faut absolument comprendre cela. Mais alors, je me dis, avons-nous bien mesuré de quoi il s'agissait, la grâce de Dieu ? Nous rendons-nous bien toujours compte de ce que ça veut dire que d'être au bénéfice de la grâce de Dieu ? Bien sûr, nous en comprenons sans doute l'essentiel. La grâce de Dieu, c'est l'acte par lequel Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle au moyen du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est le cœur, bien sûr, c'est l'essence de notre foi. Mais comprenons-nous bien toujours ce qu'il y a derrière. Au-delà de cette base de notre foi, savons-nous comment ou de quelle manière Dieu fait-il cela, dans la mesure de ce qu'il nous révèle en tout cas ? Quelles actions objectives et subjectives Dieu accomplit-il quand il nous fait grâce ? Et je me dis, c'est important de se poser de telles questions, en tout cas, il me semble, parce que ça va nous permettre de mieux discerner justement la portée de ce cadeau que Dieu nous fait. Et ce matin, c'est ce que je voudrais vous inviter à creuser. Je voudrais que l'on essaie de voir à travers différents passages bibliques tout ce que la grâce de Dieu veut dire, tout ce que ça implique, tout ce qui se passe en nous et pour nous au moment où nous nous saisissons de ce don de Dieu. Essayons ensemble et avec les anges de plonger nos regards dans la gloire de la grâce de Dieu. Mais alors par où commencer ? Parce que le sujet est quand même tellement vaste, l'œuvre de Dieu est tellement vaste. Mais bon, lançons-nous. En fait, je pense qu'on peut résumer l'œuvre de Dieu à notre égard, au moment où nous venons vers lui, en 3 actions, toutes plus belles les unes que les autres. Une triple action de grâce, c'est le titre de la prédication aujourd'hui. Et 3 mots de théologien, vont venir tenter de nous résumer ces 3 actions. Je vous les cite. À travers le sacrifice du Christ, Dieu m'offre 1. La justification. 2. La régénération. Et 3. L'adoption. Des mots peut-être un peu compliqués, ou alors au contraire qui ne semblent pas extraordinaires dit comme ça, mais qui renferment pourtant des vérités extraordinaires. Vérités qu'on va essayer de détailler. Alors nous voici devant 3 actions de Dieu qui ont lieu en même temps, en tout cas autant qu'on puisse en juger à notre échelle humaine, et qui forment un tout, qui vont vraiment ensemble. Mais malgré tout, nous voici aussi devant trois actions de Dieu qui sont différentes, au sens où elles ont une signification différente, un objectif différent, et donc des conséquences différentes sur nos vies. Et c'est pour ça qu'il me paraît pertinent de les regarder séparément toutes les trois, même si elles restent toujours liées, bien sûr. Et comme il y a tellement de belles choses à dire sur chacune des trois, je ne voudrais pas le faire trop vite. Et donc je me propose et je vous propose de le faire une par une à la fois, dans trois prédications différentes. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous concentrions sur le premier mot, la première action, la justification, sur la base du texte qu'Anne-Edith et Brigitte nous ont lu en introduction. Et puis, durant deux autres dimanches, plus tard, en 2017 sans doute, nous verrons la régénération et l'adoption. Donc ce matin, une triple action de grâce, partie 1, la justification. Et pour venir parler de ce mot et de ce qu'il renferme, je vous invite à nous pencher sur quatre questions. Quatre questions auxquelles on va essayer de répondre. La justification, qu'est-ce que ça veut dire? Qui cela concerne-t-il? De quelle manière Dieu fait-il cela? Et enfin, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie de tous les jours? Et on commence avec les deux premières questions qu'on regarde ensemble. Et je vous raconte une histoire pour débuter. César Malan, l'homme sur la photo, était quelqu'un de bien. Nous sommes au début du 19e siècle, à Genève, et nous voilà en présence vraiment d'un super gars qui fait la fierté de ses parents. Tout le monde rêverait d'avoir un fils comme lui. Jeune étudiant en théologie, puis ensuite professeur au collège de Genève, il est encensé par tous et il prêche, il enseigne avec conviction. Il insiste toujours sur la nécessité de mener une vie honorable, élevée, qui s'attache au bien. Sa pédagogie n'a de cesse de proclamer la valeur de l'homme et l'importance de mener une vie digne. Un beau message, n'est-ce pas? César prêche la vertu. Mais le problème, c'est que, comme la grande majorité de ses contemporains, César prêche la vertu qui justifie. C'est-à-dire que César enseigne la nécessité d'une vie vertueuse pour venir mériter la miséricorde de Dieu, l'accueil de Dieu. La vertu qui justifie, dit autrement, le salut par les bonnes œuvres. Sans doute, notre César n'avait pas souvent ouvert sa Bible. Et il est fort à parier même que jamais il n'avait lu la lettre aux Romains, tout professeur qu'il était. Car sinon, il n'aurait pas pu oublier ces phrases choc de Paul qu'on a lues. « Car personne, dit Paul, ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. » Ou encore, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Ta vertu, César, aussi grande soit-elle, ne te sauvera pas. Elle ne te permettra pas d'être juste aux yeux de Dieu. Ce n'est là qu'une douce illusion si typique des religions de tout ordre. Tu as raté un truc important. Et le temps passe. Mais l'histoire continue, et un jour, un après-midi, alors que les élèves de César planchent sur un devoir, le voilà, lui, qui commence à s'ennuyer à son bureau. Les profs sauront de quoi je parle. Et alors, pour passer le temps, il décide de prendre une Bible, il l'ouvre aux lettres de Paul, et il se met à lire. Et on l'écoute nous raconter son expérience. « Quand j'arrivais à cette parole, dit-il, vous êtes sauvés par grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le livre me sembla lumineux, et je fus si vivement ému que je dus sortir dans la cour du collège, où je marchais en m'écriant « Je suis sauvé ! Je suis sauvé !» On imagine bien la scène avec un sourire aux lèvres. Mais pour lui, ça n'avait rien de drôle. Parce que ce jour-là, tout changea. La vie de César prit une autre direction, dont il va subir d'ailleurs les conséquences, parce qu'il va être rejeté et déchu de son poste de professeur à cause de ses nouvelles convictions. Mais il va persévérer et il deviendra un des artisans du réveil de Genève, resté célèbre aujourd'hui. Mais alors, que s'est-il donc passé pour que sa vie prenne à ce point un tour différent? Eh bien, il s'est passé cet après-midi-là que César comprit et reçut pour lui-même la promesse de la justification, notre mot de ce matin. Cette première action de grâce de Dieu à notre égard. La justification. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Eh bien, en fait, c'est une notion juridique, un terme juridique, un terme de loi. La justification, c'est être déclaré juste par Dieu. Être déclaré juste par une parole, par un décret du Dieu Tout-Puissant. Et sur quoi repose cette déclaration de Dieu envers nous? Sur notre vertu, comme le pensait César au départ? Non, sur et seulement sur notre foi. Voici donc ce que nous affirmons, dit Paul. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. C'est là, on le sait, une vérité essentielle de la Bible, que Paul et les autres n'ont eu de cesse de défendre bec et ongles. C'est la vérité réaffirmée par Luther au moment de la Réforme et par tous les mouvements de réveil après lui. Quand l'Église tombe ou retombe dans la pratique des œuvres pour mériter Dieu, le lecteur fidèle à l'Écriture se lève et proclame encore et encore que le croyant d'Abraham à aujourd'hui est toujours déclaré juste par pure grâce sur la base de sa foi. Il n'y a sans doute pas de thème plus développé dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, rien que dans le passage qu'on a lu en introduction, je ne sais pas si vous avez compté, mais l'expression « être déclaré juste » apparaît pas moins de 9 fois. La grâce que Dieu nous fait, sa première action, son premier effet, c'est de nous déclarer juste sans que nous ne l'ayons mérité, même pas un tout petit peu. On commence fort. Mais alors, qui cela concerne-t-il? Qui peut être ainsi déclaré juste? Qui peut être au bénéfice de cela? Eh bien, on l'a déjà dit, c'est celui qui croit, celui qui a foi en Jésus. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Avoir foi en Jésus pour être déclaré juste. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir foi en Jésus? Que veulent dire ces termes-là que l'on trouve dans la Bible, comme croire, par exemple? Parce que ces mots n'ont peut-être plus toujours le même sens qu'aujourd'hui. En effet, je peux croire que Madrid est la capitale de l'Espagne sans que ça ne veuille dire grand-chose pour moi, pour ma vie, sans que cela ne m'engage. Alors que quand la Bible parle de croire ou d'avoir foi en Jésus, elle dit bien sûr tout autre chose. Elle nous appelle à placer sincèrement notre confiance en lui. Elle nous appelle à nous attacher authentiquement à ce Jésus, à nous attacher à qui il est, selon ce qu'elle nous révèle, la parole, à nous attacher à ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est la foi biblique, la vraie foi, pourrait-on dire, celle qui va se voir, celle qui aura des conséquences. Certainement pas, en tout cas, une simple croyance. Être déclaré juste aux yeux de Dieu par la foi. Voici notre première vérité concernant la justification. Mais alors, on continue de creuser et on se demande maintenant comment. Parce que quand même, c'est un peu étonnant cette histoire. Si on réfléchit quelques instants, on pourrait même trouver ça bizarre. Parce qu'il est indéniable, vous êtes d'accord, que nous ne le sommes pas, justement, juste. On l'a dit, nous sommes tous pécheurs et donc tous coupables devant Dieu. Alors comment Dieu peut-il arbitrairement nous déclarer justes? Cela ne serait-il pas finalement un peu injuste? Car notre péché, qu'en est-il de lui? Qu'en fait Dieu? Peut-il l'oublier simplement, sans conséquence et sans condamnation, comme certains le prétendent encore aujourd'hui? Dieu oublie, c'est pas si grave. Mais dans ce cas donc, comment pourrait-il être lui-même juste si le mal et le péché pouvaient ainsi rester impunis? En résumé, comment Dieu peut-il nous déclarer juste alors que nous ne le sommes visiblement pas? Et c'est en répondant à cette question que la grâce de Dieu, me semble-t-il, devient vraiment glorieuse. Alors on l'a lu dans Romains 3, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait, et on continue maintenant, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ, dit Paul. C'est lui, Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, car il lui permet, et c'est bien la question qu'on se pose, d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. C'est par le sacrifice de Jésus que nous pouvons être déclarés justes, tout en faisant que Dieu reste juste, si on peut dire. Mais encore une fois, pourquoi ou plutôt comment? Eh bien, pour deux raisons, ce sacrifice implique deux choses. D'abord, sur la croix, Jésus expie nos péchés, du verbe « expier », c'est-à-dire qu'il paie à notre place la condamnation de nos péchés. Et puis ensuite, parce qu'il est ressuscité, Jésus nous impute sa justice, du verbe plus trop employé aujourd'hui, « imputer », c'est-à-dire qu'il nous met au bénéfice de sa justice à lui. On pourrait résumer ça avec le schéma suivant. J'aime bien, je trouve que ça, enfin moi, pour moi, ça clarifie les choses. Première étape. Puisque Jésus est condamné à notre place, nos péchés sont pardonnés, effacés. Les signes moins de notre vie, comme on voit sur le dessin, synonymes de nos fautes, sont supprimés. C'est Jésus qui les a pris dans son cercle à lui et qui a payé pour cela. Et comme le psalmiste, nous pouvons désormais nous écrier, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Jésus nous purifie de nos fautes. Mais ça ne s'arrête pas là. Car si Dieu s'était arrêté ici, avec ce cercle vide, nous nous serions en un sens retrouvés un petit peu dans la même situation qu'Adam avant la chute. Une sorte de neutralité morale. Alors que là, il y a une deuxième étape, et une deuxième étape essentielle, c'est Jésus qui met à notre compte tous et plus à lui. Littéralement donc, il nous impute sa justice, c'est-à-dire qu'il considère sa justice à lui comme nous appartenant à nous. Il la porte à notre crédit. C'est pour cela que Paul pourra dire ailleurs que Jésus a été fait pour nous justice. Ou alors, j'aime aussi beaucoup ce verset d'Ésaïe qui dit « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source, j'exulterai à cause de mon Dieu. » Voilà quelqu'un qui est heureux. Pourquoi ? « Parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. » Je trouve cette image si belle. Être enveloppé du manteau de la justice. Deux actions en une, qui nous font passer gratuitement et sans participation de notre part, autre que la foi, on l'a dit, du moins au plus. Avons-nous toujours bien conscience de cela? Mesurons-nous bien à quel point ce que Dieu nous attribue ici, objectivement, légalement, juridiquement, est unique? Il me pardonne mes fautes et me recouvre de sa justice. Quelle grâce, quelle faveur imméritée. Ça, c'est la justification. Puisse Dieu convaincre parmi nous ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore saisi ce don que Dieu offre à qui veut l'accepter. Et puisse Dieu aussi, pour tous ceux d'entre nous qui sont déjà au bénéfice de ce cadeau, qui ont déjà saisi ce don, puisse Dieu nous permettre de mesurer avec toujours plus de force cette réalité dans nos vies. Parce que j'en suis sûr, plus nous en aurons conscience, plus cela viendra bouleverser notre vie de tous les jours. C'est une certitude. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit maintenant dans cette dernière partie. Qu'est-ce que le fait d'être pardonné par Dieu, d'être au bénéfice de sa justice, d'être déclaré juste par grâce au moyen de la foi, qu'est-ce que tout cela va changer dans ma vie au quotidien? Pour ma part, je vois trois choses. La première est que cela vient me convaincre, ou bien me rappeler, si je l'avais un peu oublié, que l'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment un message d'espérance, et un message d'espérance que je peux apporter au monde. Le monde a tellement besoin d'espérance. Dans un monde où tout n'est jaugé qu'au mérite, à la réussite ou à la gagne, combien unique est la parole de la Bible et la promesse de la justification. Il n'y a d'ailleurs pas à se demander bien longtemps pourquoi les idées de la réforme ou les renouveaux des réveils se sont toujours propagés comme une traînée de poudre. Parce qu'ils ont fait entendre à nouveau un message oublié et surtout un message d'espérance. Le salut est un don gratuit de Dieu. Vous n'avez pas à le gagner par des pratiques quelconques ou par une vie vertueuse. Il est là, disponible. La vie éternelle est offerte à celui qui veut s'en saisir. Et on se rappelle ces paroles prophétiques de Jean à la toute fin de la Bible, dans les derniers versets de la Bible. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Et oui, pour notre part, nous pouvons faire entendre ce message d'espérance au monde qui nous entoure. Bill Hybels, spécialiste s'il en est du partage de l'Évangile, disait que si nous voulions convaincre le monde de la vérité de l'Évangile, eh bien, il nous fallait d'abord nous-mêmes être convaincus de sa dimension incroyable. Il nous fallait nous-mêmes être convaincus du message d'espérance unique qu'il transmet et à travers lui de la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard. Et à ce moment-là, alors, son impact pouvait être plus grand. Un message d'espérance. La deuxième implication de la justification pour nous est que cette réalité a vraiment vocation à nous donner une assurance inébranlable. Ça, c'est vraiment le trésor que contient la justification. Avec cette promesse infinie pour celui qui s'est attaché au Christ, nous n'aurons jamais à subir le châtiment de nos péchés, puisqu'ils ont déjà été payés. Nous n'aurons jamais à subir le châtiment de nos péchés. Nous pourrons souffrir des conséquences de notre péché sur la terre, oui. Nous pourrons aussi subir la correction de Dieu, oui, la Bible en parle. Mais nous avons la certitude que Dieu ne tirera jamais vengeance de nos péchés. Nous avons la certitude que nous ne serons jamais condamnés à cause d'eux. Dans le chapitre 8 de sa lettre aux Romains, Paul le réaffirme, et Joël nous l'a lu tout à l'heure, « Maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Ou encore plus loin, « Qui accusera les élus de Dieu ?» Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Avec encore cette expression, être déclaré juste. Et plus encore, la justification nous garantit, sans aucune ambiguïté, d'avoir part à la vie à venir avec Dieu, la vie éternelle. Et toujours dans Romains 8, Paul dit, Ceux qu'il a destinés, il les a appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Et on le voit dans ce passage. Personne ne se perd en route. Personne. Ceux qui sont déclarés justes par la foi en Jésus seront conduits à la gloire. Il n'y a pas de plus belle promesse dans toute la Bible que cette assurance pour celui qui croit qu'il sera pour toujours avec Dieu au ciel. Et pourtant, on a parfois du mal avec ça, avec cette promesse. Devant nos chutes encore présentes, notre nature humaine a vite tendance à remettre en question ces promesses divines, ou plutôt à remettre en question l'assurance qu'on en est bien toujours au bénéfice. Ou alors, une autre difficulté peut-être, est que parfois, eh bien, on a un peu peur de dire tout haut cette vérité incroyable, par crainte des abus de toutes sortes. Et notamment l'abus de celui qui sera bien content de dire « je crois » pour mettre sa conscience à l'abri et mener ensuite sa vie comme il l'entend. Cela existait à l'époque de Paul, puisqu'il en parle. Cela existe, soyons-en sûrs, encore aujourd'hui. Mais on l'a dit, c'est ici une pseudo-croyance qui n'a rien à voir avec la foi. Et nous ne devrions pas, et je reprends ici la pensée de Jerry Bridges, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur la grâce, sous prétexte que certains caricaturent ce cadeau de Dieu, nous ne devrions pas nous empêcher, malgré tout, d'affirmer haut et fort cette réalité, la plus belle des réalités bibliques, l'assurance sans ambiguïté de la vie éternelle pour celui qui s'est attaché au Christ, et la paix que cela vient nous apporter en conséquence. Ne diminuons pas les promesses de Dieu par crainte de ceux qui les mépriseront. Et puis enfin, donc on a vu un message d'espérance. On a vu une assurance inébranlable. Et dernier point maintenant, dernière implication de la justification sur ma vie, c'est une motivation pour marcher vers la sainteté. Car, à l'opposé de l'attitude qui se sert de la justification, on l'a dit, pour tranquilliser son esprit tout en marchant vers une vie centrée sur lui-même, ses désirs ou ses convoitises, le fait d'avoir été déclaré juste par Dieu sera vraiment, pour celui qui croit, un dynamiteur de la marche chrétienne et de la route à la suite du Christ. Savoir que tout est accompli, savoir que tout m'est déjà donné gratuitement, savoir que rien ne pourra changer cela, ne devrait pas m'endormir, mais au contraire, m'encourager à vivre dorénavant en cohérence avec ce que Dieu a déjà déclaré juridiquement et objectivement. Si j'ai compris la grandeur de ce que Jésus a fait pour moi, si j'ai compris la portée de cette déclaration de justice, alors je vais avoir envie de m'intégrer à ce projet de toutes mes forces et de vivre cette réalité objective dans ma vie subjective. Cela ne sera sans doute pas toujours évident, cela ne se fera pas toujours sans combat, mais c'est malgré tout vers là que va vouloir tendre ma volonté et mon cœur. Car je suis appelé par Dieu à devenir toujours plus ce que je suis déjà devenu en Christ. Voilà donc pour ces trois points d'application concrète de la justification dans ma vie, et avec eux, voilà pour cette première action de grâce. On l'a dit, et je le répète, une action objective, légale, qui me parle de mon statut et de ma position devant Dieu. Par la foi, je suis juste, pardonné de mes péchés qui ont déjà été payés et couvert dorénavant du manteau de la justice parfaite. Une telle libération, une telle espérance, une telle assurance mise à mon crédit, comme le dit Paul dans le texte, gratuitement. Une première action de grâce qui change tout pour nous. Mais ce n'est même pas fini, et je dirais même plus, comme le ferait un Dupont. Ce n'est que le début. La grâce de Dieu ne s'arrête même pas là. Ses cadeaux continuent. Et donc, une autre fois, nous parlerons de la régénération, cette action vraiment mystérieuse de Dieu, mais qui vient agir en parfaite adéquation de la justification. On verra comment dans le détail. Et puis enfin, nous parlerons de l'adoption et de ses implications énormes, à la fois pour notre présent et pour notre avenir. Tout un programme à notre bénéfice. Décidément, que Dieu est grand. Que ce que Dieu fait est grand. Puissions-nous tous ici, encore une fois, ou bien le réaliser pour la première fois, ou bien laisser ces paroles nous toucher à nouveau, nous bouleverser à nouveau. Ne laissons pas l'habitude les rendre habituelles, tellement ils sont uniques. Je termine avec un hymne, un poème en fait, d'un grand homme de foi du XVIIIe siècle, le comte von Zinzendorf. Écoutons ensemble, pour conclure, ces paroles de grâce. Ma seule justice est Jésus. Son sang est l'habit de mon salut, dont revêtu devant mon Dieu, je paraîtrai dans son saint lieu. Croyant en lui, je suis exempt de la crainte du jugement. Pour moi, son sang a payé tout. Dès lors, à plein, je suis absous. Je crois que son sang précieux contient tous les trésors de Dieu, que sa valeur seule aura cours au ciel et sur terre à toujours. Quand même nos transgressions surpasseraient des millions, je crois que tout est acquitté et que tout homme qui croit est racheté. Tandis qu'ici-bas je vivrai, jamais je ne me lasserai de publier ce grand salut acquis par le sang de Jésus. Jésus, sois sans cesse exalté, qui, prenant notre humanité, paya pour le monde et pour moi la rançon parfaite à la croix. Amen.